15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. À tous les jours, il est à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un témoignage, celui d'un chirurgien et pas n'importe lequel. C'est Éric Chesson, président de l'association La Chaîne de l'Espoir. Il publie un livre, L'arrogance du bistouri, dans lequel il jette un regard acerbe sur sa profession, tout en la regardant aussi avec tendresse. Ces chirurgiens, ils font surtout aujourd'hui ce qu'ils peuvent pour nous soigner, nous réparer dans un hôpital public, parfois en grande difficulté. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour aujourd'hui, un conseil aux jeunes parents. Il va nous dire ce qu'il faut faire pour éviter que son bébé ait la tête plate. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des laits végétaux, les d'avoine, les d'amande. Pourquoi en consommer? Que nous apporte-t-il? Et peut-on en donner également aux enfants? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des préliminaires. À quel rythme faut-il en faire à son partenaire? Et d'ailleurs, est-ce vraiment indispensable pour avoir une sexualité épanouie? Elle nous dira tout, mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite on écoute la première question, c'est celle de Victor, 37 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai un traitement que je dois prendre tous les jours et des cachets que je dois avaler. Je voudrais savoir si c'est grave si je les avale avec du jus et pas de l'eau. Voilà, merci beaucoup.
C'est une bonne question, c'est vrai. Est-ce que Jimmy, on doit absolument avaler ces médicaments, comme c'est parfois écrit dans la notice ou le recommande le médecin, avec un grand verre d'eau?
Alors c'est préférable. D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt de commencer sa journée avec un jus de fruit. Un jus de fruit ne remplace pas un fruit. Dans un monde parfait, il faudrait plutôt prendre les médicaments avec de l'eau. Après, ça peut être parfois un peu compliqué, notamment chez les enfants. On essaie de masquer avec le goût. Donc là, on peut comprendre une tolérance. Mais attention, il peut y avoir des interactions avec certains jus, notamment le jus de pamplemousse.
Alors on va en parler, hein, mais parce que il y a un risque donc avec certains jus. Donc vous disiez le jus de pamplemousse, mais c'est le pamplemousse tout court aussi. Hein. D'ailleurs, c'est pas que le jus. On va en parler. Pourquoi ce pamplemousse, il crée des problèmes comme ça?
Alors certaines fausses études avaient montré que le jus de pamplemousse pourrait inhiber l'effet d'un médicament. Et au contraire, on s'est rendu compte que ça pouvait aggraver la fréquence et la gravité des effets secondaires. C'est notamment lié au fait que le pamplemousse, que ce soit en jus ou sous forme de fruits, entraîne une compétition avec une enzyme qui est censée dégrader notamment le médicament et qui fait que ça va s'accumuler. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans certaines statines, donc les médicaments contre le cholestérol, si on prend un verre de jus de pamplemousse, 250 ml suffit pour avoir un effet durant 24 heures. C'est comme si vous avez pris 15 jours de traitement.
Ah oui, d'un coup. Donc bam, surdose.
Surdose. Même chose notamment dans les chimiothérapies. Attention, il peut y avoir des inductions et des interactions avec le jus de pamplemousse. Donc, il faut signaler à votre médecin oncologue ou votre médecin si vous avez l'habitude de prendre des jus pour éviter notamment ces effets secondaires.
Bon, alors le jus de pamplemousse, on oublie, ça on a bien compris. Mais est-ce qu'on peut prendre du jus de pomme ou du jus d'orange alors?
Alors, pour l'instant, c'est pas très clair. On pense qu'il pourrait y avoir une interaction. Des études montrent que c'est plutôt en faveur de ça. Mais mieux vaut préférer l'eau. Même si de temps en temps, ponctuellement, vous pouvez, mais il ne faut pas que ce soit une habitude, notamment avec les médicaments qu'on appelle à marge thérapeutique étroite. C'est des médicaments pour lesquels la dose efficace est proche de la dose toxique.
Voilà,
et donc, on a besoin d'un parfait équilibre, donc évitez plutôt les jus, de l'eau suffit largement.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Pierre, 23 ans, on l'écoute.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. Voilà, comme j'ai repris le sport depuis la rentrée, je voulais savoir s'il était important ou non de s'étirer juste après la séance. Merci pour vos réponses.
Alors Jimmy, vous qui êtes un grand sportif...
Je sens de l'ironie là, Mélanie.
Les étirements, je crois que c'est un sujet qui fait un peu débat d'ailleurs entre les sportifs comme vous. Mais Jimmy, à quoi ça sert de s'étirer? D'ailleurs, il y a des étirements avant et après le sport.
Exactement, c'est ça qu'il y a trois écoles. La première, c'est la mienne où on ne fait pas de sport.
Voilà,
comme ça, c'est réglé.
Il y a trois écoles, voilà, c'est ça.
La deuxième, ce serait les sportifs qui diraient que les étirements pourraient nuire à la performance sportive. Et puis, il y a monsieur et madame tout le monde pour lesquels l'étirement pourrait avoir un vrai bénéfice, notamment pour limiter le risque de blessure. Sur les courbatures, on n'est pas trop sûr, on pense que globalement ça ne sert pas à grand chose, mais vous pourrez peut-être éviter une entorse, une élongation si vous étirez correctement avant et après.
Alors du coup, on prend quel camp là ? Vous avez dit qu'il y avait trois écoles. Est-ce qu'il faut s'étirer ou pas avant l'effort déjà, donc avant commencer ?
Il est quand même préférable chez le sportif lambda de s'étirer avant l'effort.
S'échauffer un peu,
exactement.
C'est ça en fait. Plutôt.
Pour s'échauffer, pour préparer le muscle qui va être sollicité à un effort physique intense. J'aimerais vous rappeler qu'un exercice de musculation, par exemple, correspond au cassage des fibres musculaires pour ensuite les redévelopper et prendre de la masse musculaire. Donc c'est un exercice qui est violent pour l'organisme. Donc il est plutôt important de s'étirer, mais progressivement, parce que si on y va trop vite, trop fort...
Il ne faut pas avoir mal, en fait.
Exactement,
hein,
il ne faut pas que ce soit douloureux. Il faut que ce soit progressif, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'un coach sportif qui aura l'habitude de vous donner les bons gestes.
Les bons exercices.
Exactement. Pour ensuite prendre les bonnes habitudes, parce que souvent, on a des habitudes qui sont mauvaises et qu'on va répéter, et puis forcément, ça peut conduire à la blessure. Donc oui, à l'échauffement, mais de façon progressive et jamais sans douleur.
Ça, c'était avant, mais après le sport, du coup, vous disiez sur les courbatures, on n'est pas sûr que ça a un impact, mais si comme vous, on est un grand sportif et qu'on veut s'étirer quand même après, on fait comment ?
Alors, globalement, il faut faire ça 10 minutes, c'est très bien. On favorise l'étirement au moment de l'expiration. Il faut aussi y aller progressivement, il ne faut pas que ce soit douloureux. N'hésitez pas à prendre une douche chaude, ça pourrait aider. N'oubliez pas l'hydratation qui pourra éviter certaines complications, notamment les claquages musculaires. Bref, vous pouvez vous étirer, mais encore une fois, il faut y aller progressivement.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Alors si vous aussi, comme Pierre qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous dire comment éviter que son bébé ait la tête plate. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Éric Chesson. Avec lui, on va parler de sa profession de chirurgien, de sa carrière et de son regard acerbe sur ce métier qu'il a tant aimé et qu'il aime toujours. Il est désormais surtout le président de l'association La Chaîne de l'Espoir. On en parle dans un instant. Mais juste avant, je vous laisse avec l'artiste Vanessa Paradis et son titre « Vague à l'âme sœur ».
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le chirurgien Éric Chesson. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des bébés qui ont la tête plate. C'est un problème, ça ? C'est quoi, en fait ? C'est très grave d'avoir la tête plate ?
Alors, c'est vrai que c'est lié au fait que le crâne des bébés est tout mou, un peu comme de la pâte à modeler. Et c'est ce qui permet notamment au fœtus, au bébé, de passer le canal vaginal pour que l'accouchement se passe dans de bonnes conditions. Et on estime à un bébé sur deux qu'il y aurait une déformation naturelle au moment de la naissance. Mmh. Et cette déformation disparaît progressivement. Mais chez certains bébés, elle tend plutôt à s'aggraver.
Après la naissance,
exactement.
Quoi.
Mmh. Et on aboutit à ces enfants à la tête plate, dont tout le monde s'inquiète.
Alors justement, une fois qu'ils sont nés, qu'on a passé cette phase de l'accouchement où elle peut effectivement se déformer un petit peu, pourquoi elle s'aplatit la tête ?
Alors c'est notamment lié au fait que le poids de la tête du bébé est très important par rapport au reste du poids du corps. Mmh. La musculature du muscle du cou est plutôt faible. Et du coup, leur tête, exactement.
Ouais.
Et ça a été aggravé par le fait que désormais, on couche les bébés sur le dos dans la prévention de la mort subite du nourrisson. Et par conséquent, comme ils sont toujours tête sur le même appui, et ben, petit à petit, on a les os du crâne qui s'affaissent et qui aboutissent à cette tête plate.
Mais c'est pas si grave, en fait.
Non, alors
ça a été
médiatisé il y a quelques temps où justement, on inquiétait les parents en leur disant que leur enfant aura plein de conséquences. Et on associe tête plate à malformation du cerveau. On se dit qu'il va avoir des problèmes de quotient intellectuel, des problèmes de vision. On a des ostéopathes qui vous font peur à longueur de temps en vous disant c'est la catastrophe. Par contre, on sait que ça peut avoir des conséquences, notamment au niveau de la mâchoire et des risques au niveau d'une éventuelle scoliose plus tard. Mais en règle générale, avec quelques conseils simples, on peut éviter justement cette tête déformée et puis au moins la corriger.
Mais vous allez nous les donner, ces conseils. Alors, comment on la prévient, la tête plate ?
Alors, j'ai dit que c'était lié au couchage sur le dos des bébés. Mais il faut quand même les coucher sur le dos. On ne change pas cette position.
Pas pour ça.
En revanche, on peut changer l'orientation du bébé. C'est-à-dire que s'il est couché la tête vers la porte, on peut essayer de tourner la tête vers la fenêtre pour que lui, avec ses yeux, soit stimulé et tourne volontairement ses yeux. On évite les cosy où on veut les mettre dans des couffins où ils sont bien coucounés, ils bougent pas, parce que ça favorise les mêmes appuis. Si on les met sur des petites
tapis d'éveil,
on évite les arches au-dessus de la tête parce que forcément c'est immobile, il faut plutôt l'enlever et au contraire ils auront les yeux plutôt stimulés à droite
parce
à gauche et donc ils seront attirés par le bruit et autres. Même chose sur le fait de temps en temps les mettre sur le ventre. Il est préférable de les mettre sur le ventre, non pas la nuit, mais en journée, ça stimule leur musculature et puis ça leur permet d'éviter cette malformation. Et enfin, on évite tout ce qui est cale-tête qu'on pourrait mettre sur le côté, notamment aux États-Unis. Il y a un risque majoré de mort subite du nourrisson. Bref, on évite. Et puis si on a un doute et qu'on pense que ça persiste, on va voir son pédiatre qui, dans des cas un peu avancés, prescrit un espèce de casque pour éviter les appuis, mais ça reste assez rare.
Pour des cas effectivement très rares. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Éric Chesson, il est chirurgien, président de l'association La Chaîne de l'Espoir. Et si on le reçoit aujourd'hui, c'est qu'il sort un livre, L'arrogance du bistouri, aux éditions Hugo Doc. Bonjour docteur Chesson.
Bonjour.
Alors dans votre livre, vous racontez à la fois des anecdotes sur votre propre carrière de chirurgien, on va y revenir, mais vous portez aussi un regard assez critique, d'ailleurs c'est le titre même de votre livre, L'arrogance du bistouri, une sorte de mea culpa puisque vous vous incluez dedans, vous êtes un chirurgien, donc vous dites, nous les chirurgiens, on est tous arrogants, c'est ça?
Non, peut-être que j'ai été un peu provocateur par ce titre, mais aussi je voulais signaler deux choses. C'est d'abord, je pense que pour faire chirurgie, il faut un psychisme particulier. Alors je ne sais pas si c'est la chirurgie qui nous donne ce psychisme particulier, ou s'il faut avoir ce psychisme particulier pour faire une carrière de chirurgien. Mais je pense que beaucoup de patients peuvent nous vivre comme arrogants parce qu'ils arrivent, ils sont terrorisés sur quelque chose qu'ils ne comprennent absolument rien. Et ils ont en face d'eux un être humain qui va leur ouvrir le ventre, qui va leur ouvrir le thorax ou qui va changer leur hanche. Et ils sont,
dans un tel état. On vous confie nos vies, c'est ça aussi, bien souvent.
Tout à fait. Et donc, parfois, le patient sort et il est terrorisé et en même temps, il n'a pas très bien compris.
Jimmy ?
J'ai des amis chirurgiens qui m'expliquent que cette arrogance apparente cache parfois de l'angoisse de leur part, l'angoisse de la responsabilité, justement, comme vous dites, d'ouvrir le ventre. Et une pression qu'ils ont et qu'ils essaient de masquer au travers une arrogance particulière.
Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de métier plus difficile, de plus haute responsabilité et de plus difficile. C'est un parcours d'une difficulté sans pareil. Et nous sommes, je dirais, en possession de notre métier à 32, 33, 34 ans. Et c'est donc un parcours d'une telle longueur que peut-être à un moment, nous sommes coupés d'une certaine réalité et de l'empathie que nous devrions avoir vis-à-vis du patient ou qui ne nous comprend pas. Parce que, comme vous le dites, on est tellement imbibé de notre métier qu'on banalise le fait d'ouvrir un ventre, par exemple.
Alors nous, on adore passer dans les coulisses un petit peu de ce monde médical, surtout chirurgical, qu'on connaît mal, nous les patients. Vous, la vocation de chirurgien, elle n'est pas venue tout de suite au départ. Vous ne vouliez pas du tout être ça. Vous vouliez être généraliste, je crois.
Tout à fait. Moi, je voulais être généraliste et surtout médecin de campagne. Et pendant mes études, mon premier contact avec le monde de la chirurgie a été très dur. Je voyais ces chirurgiens, mais tellement loin, tellement un peu arrogants et souvent brutaux. Et en tant qu'étudiant en médecine, j'étais terrorisé par ce monde des brahmanes, ce monde vraiment inaccessible pour un jeune étudiant.
Alors on va voir dans un instant que tout a changé avec un stage en Tunisie. Vous allez nous expliquer dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit donc cette immersion dans le métier de chirurgien. Le docteur Éric Chesson, vous allez l'entendre, s'interroge notamment sur sa profession presque hors de contrôle. Pourquoi ne lui a-t-on jamais demandé au cours de sa carrière s'il avait encore une bonne vue ou si ses doigts étaient toujours aussi agiles? Faudrait-il imposer une visite médicale aux chirurgiens comme on le fait avec les pilotes d'avion? On y revient très vite. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le chirurgien Éric Chesson, président de l'association La Chaîne de l'Espoir, qui s'attaque aujourd'hui un petit peu à ses congénères quand même, à ce métier de chirurgien. Alors docteur, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas voulu dès le départ être chirurgien. Au départ, vous vouliez être médecin généraliste en zone rurale. Et puis finalement, un stage en Tunisie vous fait changer d'avis.
Oui, c'est pour ça que je modère votre propos. M'attaquer, non. Et je voudrais essayer qu'on remette un tout petit peu d'ordre. Pour moi, j'ai découvert en Tunisie, avec un maître absolument extraordinaire, qui m'a montré ce qu'était le métier de chirurgien, ce qu'était l'art chirurgical. Et j'ai eu envie d'y accéder parce que, d'abord, le bloc opératoire, c'est le plus bel atelier du monde. Et je suis sculpteur. Et également le contact avec le patient, cet acte chirurgical magique qui apporte une solution, c'est blanc ou c'est noir, on débouche une artère, on répare une fracture. Et donc j'étais fasciné par ça et j'ai eu envie de faire ce métier. Et là, c'est un long, long chemin, difficile, parce que l'école de chirurgie française est une des meilleures au monde. Mais les plus difficiles, C'est un compagnonnage qui est très exigeant le jour, la nuit, pendant de très nombreuses années pour obtenir ce Cézanne qui est le diplôme de chirurgien. Ça a été pour moi un très long parcours. Je ne le regrette pas, mais c'est un peu dur.
Il faut le dire, c'est sûr. Et pour ceux qui auraient envie effectivement de se lancer dans cette carrière, il faut le savoir à l'avance, effectivement. Alors vous rentrez après la Tunisie finalement à Paris, et donc ça y est, vous devenez l'un des leurs, vous devenez chirurgien. Et là, du coup, bah, vous vous fondez dans la masse, hein, vous devenez vous aussi un peu arrogant, parce que à l'hôpital, vous avez un rôle particulier, les chirurgiens. En fait, vous êtes regardé différemment. On vous dit rien, on vous respecte. Vous êtes une élite, quoi, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Je dirais le chirurgien par ce qu'il est, par ce qu'il représente et par le poids énorme de ses responsabilités fait que c'est vrai, c'est souvent un monde un peu à part, un comportement un peu à part. Souvent, on dit que les chirurgiens sont un peu taiseux ou...
Il y a une blague sur les chirurgiens,
oui,
je crois. C'est quoi cette blague ?
Cette fameuse blague, c'est « Est-ce que vous connaissez la différence entre Dieu et un chirurgien ?» Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. c'est une plaisanterie, mais elle résume un tout petit peu les choses. Le chirurgien aime être concentré sur son acte, il aime aller au bout des choses, et cette pression de l'administration, cette lourdeur actuellement dans les hôpitaux lui est souvent insupportable. Et il est souvent un peu rough, un peu dur dans son contact.
On va revenir sur la lourdeur de l'hôpital tout à l'heure, mais Jimmy d'abord.
Et paradoxalement, cette élite, vous dites que finalement personne n'ose la contrôler. Vous faites un parallèle notamment avec les pilotes d'avion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, l'ensemble des précautions sont intervenues dans les blocs opératoires et nous avons introduit la fameuse checklist, c'est-à-dire de pouvoir contrôler tout ce qui se passe à l'entrée, à la sortie, pour diminuer le risque, parce que le risque est inhérent à toute opération. Et donc, très souvent, on a comparé le chirurgien au pilote d'avion, car le stress, la responsabilité peut être comparable. Si nous allions au bout de la comparaison, c'est vrai que les pilotes d'avion sont soumis à des examens annuels et à la grande, entre guillemets, révision tous les 5 ans. Et les chirurgiens, eux, ont leur diplôme à 32, 33, 34 ans. Et ensuite, il n'y a pas de contrôle. Je dirais, il n'y a pas de contrôle. C'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle.
Ça devrait changer, ça ?
Oui, je pense qu'il faudrait à un certain moment avoir un contrôle de l'acuité visuelle, de l'habilité à opérer, de voir si le chirurgien n'est pas exposé comme beaucoup d'autres à des problèmes.
Un
chirurgien qui a un arrêt de travail, une grosse opération, rentre un lundi matin et il réopère, alors que beaucoup de patients, dans quelques professions que ce soit, ont un minimum de contrôle pour reprendre leur activité. Surtout quand vous avez une responsabilité aussi lourde et un devoir de résultat vis-à-vis de votre patient.
On n'en a pas terminé avec vous, docteur Chesson. On va poursuivre dans quelques minutes cette discussion. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va continuer cette immersion dans le métier de chirurgien, un métier qui est aussi en train de changer avec l'arrivée des robots. Les chirurgiens vont-ils bientôt descendre de leur piédestal ? Et puis on parlera aussi de ces hommes et femmes qui, bistouris à la main, font surtout aujourd'hui souvent ce qu'ils peuvent dans un hôpital public, bien souvent à bout de souffle. Restez avec nous sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le chirurgien Éric Chesson. Il dirige l'association La Chaîne de l'Espoir. Alors dans votre livre, docteur, vous dites aussi que c'est pas normal finalement qu'en France, les patients n'aient pas connaissance de vos antécédents. Par exemple, vous parlez du fils d'un patient qui a été un de vos derniers patients opérés, une de vos dernières interventions, qui vous a demandé, alors qu'il vous allait opérer son père d'un anévrisme de l'aorte, donc de l'aorte abdominale, un truc sérieux quand même. Docteur, vous avez déjà fait cette intervention ? Alors vous dites que la question, elle n'est pas ridicule.
Non, elle n'est pas ridicule du tout et je crois qu'il faut, il faut la comprendre et l'entendre. J'ai opéré pendant quelques années au Canada et je pense qu'il est nécessaire que le patient sache si d'abord on pratique cette intervention, d'abord combien de fois dans l'année, ça pourrait être intéressant, et d'avoir aussi une certaine visibilité sur nos résultats. Au Canada, vous avez un registre au Collège Royal où vous avez un taux de complication reconnu pour chaque intervention. Si vous êtes au-dessus, on vous demande de repasser un stage de formation. Si l'année suivante, vous êtes toujours au-delà de...
Connaissance de ça, on n'ira qu'avec les meilleurs. Personne ne voudra être opéré par celui qui a un taux de complication record.
Excusez-moi, mais enfin, d'abord, nous avons une chance en France. Nous avons la meilleure école de formation, qui est l'école de chirurgie française reconnue dans le monde entier. Donc nous avons une moyenne qui est absolument excellente dans le monde entier. Mais il y a des hauts et des bas, comme dans toute profession. Et excusez-moi, quand vous allez vous faire opérer qui d'un sein, qui d'une prostate, qui d'un poumon, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit le meilleur possible.
Jimmy ?
Des chirurgiens, mais néanmoins, vous avez fait de l'humanitaire, vous faites de l'humanitaire et vous avez commencé notamment avec Bernard Kouchner à être ses French docteurs chez MSF. Est-ce que vous pensez que cet engagement, si vous ne l'aviez pas pris, vous auriez été un médecin différent ?
Oui, je serais un médecin différent et vous m'emmenez sur un sujet qui me passionne lorsque je suis à Kaboul, lorsque je suis au Mali ou lorsque je suis au Burkina et que je reviens en France. Je suis un amoureux de notre système et je voudrais créer une autre association et cette association, ce serait pour défendre notre système le plus merveilleux au monde qui s'appelle la sécurité sociale. Et donc, je ferais une chose très simple et ça ne coûterait pas un sou. Pour toute personne qui sort d'un hôpital ou d'une clinique, je lui envoie une lettre avec en tête de la République française. Monsieur, madame, nous sommes heureux d'avoir réglé pour votre intervention du sein, de la hanche. Nous avons réglé une somme de 12 000 euros. Et nous vous remercions d'avoir participé au ticket modérateur de 83 euros. Et je vous assure que les patients, mais également les médecins, seraient absolument étonnés du coût considérable de cette sécurité sociale, de la chance inouïe que nous avons. Et je crois qu'on arrêterait les plaintes et les complaintes permanentes parce que les gens se diraient « Mais tu te rends compte ? La sécurité sociale a réglé pour moi 40 000 euros. Mmh. Par exemple, pour un pontage coronarien, pour une greffe, plus de 100 000 euros. Pour un traitement pour l'hépatite C, 22 000 euros. Mais c'est...
On a perdu la notion, effectivement.
Et on a perdu cette notion. Ouais. Donc, si vous voulez, le fait d'aller là-bas et de revenir me dit que notre système est absolument extraordinaire, mais qu'il est menacé.
Et oui, il est menacé, justement. Vous, dans votre livre, vous décrivez notamment un des derniers patients que vous avez opéré. Vous arrivez au bloc, une opération que vous aviez bien préparée, le patient était prêt, un patient quand même inquiet, il avait une grosse intervention à venir. Et au moment de rentrer au bloc, on vous dit bah « Non, docteur, aujourd'hui, vous ne pouvez pas opérer, il n'y a pas d'infirmière disponible. »
Oui,
ça, c'est tous les jours.
Vous savez que notre hôpital est en crise. On a vu l'appel des 108. On voit le problème des urgences. On voit l'appel désespéré des infirmières, des paramédicaux. Mais bien sûr que nous sommes en crise. Et
alors là, c'est tous les jours ce genre de problème ?
Mais tous les jours. Alors, si vous voulez, c'est multifactoriel.
Parce qu'on entend beaucoup les urgences en ce moment. On dit les urgences sont en grève partout en France.
Mais c'est l'ensemble. D'abord,
c'est dans tous les hôpitaux, dans tous les étages de l'hôpital.
Il n'y a pas de lit d'aval. On ne peut pas faire sortir un patient. Donc, vous n'avez pas de place en réanimation. Nous avons une énorme crise de démographie. Il manque 19 000. Écoutez bien, 19 000 postes sont vacants dans les hôpitaux en France. Et je rajouterai 44% des médecins ont plus de 55 ans. Oui. Donc le pire est à venir. Et donc c'est multifactoriel. Je ne voudrais pas alourdir le débat parce que nous n'avons pas assez de temps, mais la tarification à l'acte est une catastrophe et je vais choquer, je le sais, mais je le pense profondément. L'introduction des 35 heures dans les hôpitaux a été une catastrophe. Il fallait voter l'exception sanitaire, comme nous avons l'exception culturelle en France, et surtout bien payer les personnels et ne pas introduire ces 35 heures. On ne peut pas compter son temps quand on est médecin.
Selon vous, c'est là que ça a commencé la dérive un petit peu à l'hôpital.
C'est un des points qui a commencé à entraîner cette dérive.
Jimmy ?
Et si on parle d'avenir, on doit parler aussi robots. Les robots commencent à faire leur apparition. Est-ce que vous pensez que le robot remplacera le chirurgien d'aujourd'hui ?
Non. Mais je pense qu'il ne remplacera en aucun cas. Il permettra de progresser, comme nous avons introduit la célioscopie, permettant de faire des toutes petites incisions, comme nous avons introduit ce qu'on appelle l'endovasculaire, c'est-à-dire qu'on traite les artères par en dedans, sans ouvrir. La robotique est encore un progrès. Mais c'est un progrès. Mais soyons, alors là, si vous voulez, moi je serais pour un langage de vérité. et d'arrêter l'open bar à tous les étages, pour les patients, pour les praticiens, pour les biologistes, pour les ambulanciers et autres. On dit la vérité. Vous voulez la robotique, et je pense que c'est un progrès. Mais à ce moment-là, il faut accepter de la payer, et que nous la payons tous collectivement. Et donc, excusez-moi, ce n'est pas très correct politiquement, mais d'assumer les choses et d'arrêter les râleries permanentes.
Mais le métier de chirurgien, il va quand même évoluer. Donc vous dites que cette robotique, elle ne remplacera pas l'homme. Il y aura toujours un homme derrière la machine. De toute façon, au cas où justement il y a une défaillance de la machine, il y a besoin au moins du chirurgien. Mais le chirurgien de demain, ceux qui sont en train de se former là, vous les regardez, vous les voyez, ces jeunes chirurgiens, on peut avoir confiance en eux, nous, parce qu'on a toujours l'impression que c'était mieux avant.
Absolument pas. Je pense qu'ils suivent exactement le même processus que moi et que d'autres ont suivi. Nous avons modifié en permanence notre pratique et les chirurgiens sont non seulement ouverts, mais ils vont vers le changement et il faut accompagner ce changement et surtout l'expliquer aux patients. Et surtout, ne pas leur dire, vous savez, ce n'est pas une opération, on fait ça par robot, il n'y a rien du tout. Non, c'est une autre voie d'abord, c'est une autre voie pour opérer, mais c'est une opération avec toujours les risques de complications et ça fait partie de ce dialogue que nous devons avoir avec le patient.
Bon, dans votre livre, effectivement, vous voudrez vous parler de l'arrogance, du bistouri, des chirurgiens, mais vous l'aimez toujours ce métier.
Je l'adore, je vous redis que c'est le plus beau.
Se coucher le soir en se disant j'ai tout sauvé 2, 3, 4 vies, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein.
Exactement.
Et donc vous ne regrettez rien ?
Non seulement je ne regrette rien, mais je continue, je dirais, loin de nos territoires,
avec
loin
de
la France, et nous formons énormément de chirurgiens à travers le monde grâce à ce que nous avons reçu, c'est-à-dire à l'école de chirurgie française.
Merci beaucoup Éric Chesson d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ce magnifique métier de chirurgien. Je rappelle le titre de votre livre, L'arrogance du bistouri, chez Hugo Doc Édition. Merci encore.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux laits végétaux, les de riz, d'amande ou de soja. Sont-ils réellement bons pour notre santé? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'un bobo, on parle en tout cas de quelque chose qu'on consomme au quotidien pour certains. On parle des laits végétaux, les d'avoine, les d'amande. Et pourquoi en consommer? Que nous apporte-t-il? Peut-on en donner aux enfants? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Les d'amande, les d'avoine, ce genre de choses.
J'imagine le lait de soja, le lait de coco.
Je consomme du lait d'amande, mais que je mélange avec du lait de vache pour faire un mélange un peu plus léger et plus facile à digérer.
J'adore ça parce que je suis végétarienne, végétalienne.
Il y a vraiment une différence de goût, un peu de texture parfois. Après, ça ne me gêne pas d'utiliser tout ce qui est lait d'amande ou lait de soja pour faire plus de la pâtisserie ou de la cuisine en règle générale.
Je ne sais pas s'il y a des indications ou des contre-indications pour les femmes enceintes ou pour les bébés ou ce genre de choses.
J'ai lu des trucs comme quoi il y avait eu des cas de nourrissons ou de jeunes enfants qui étaient décédés avec des parents qui étaient végétariens, végétaliens. Il y avait eu des soucis d'apport en fait, nutriments, vitamines, etc.
L'animal, tout ce qu'il consomme, va se retrouver dans ce qu'il va produire, que ce soit viande ou lait. Je pense que la plupart des gens qui boivent des laits végétaux cherchent à éviter justement à ne pas retrouver en fait ces déchets.
Alors Dimitri, faisons un point donc sur les laits végétaux. D'abord, ce qu'il faut préciser à nos auditeurs, c'est que finalement, quand on parle de lait, c'est un abus de langage, hein, les laits de riz, d'amande, c'est en rien du tout un lait en fait.
Exactement. En nutrition, quand on parle de lait, on parle uniquement de ce qui est sécrété par les glandes mammaires d'un mammifère, c'est-à-dire d'une vache, d'une chèvre, ou finalement d'une femme, notamment avec le lait maternel.
J'allais dire ou de moi.
Oui, non, mais effectivement. Et donc ça, c'est du lait. En revanche, on utilise cette appellation de façon abusive pour le lait d'amande, le lait de soja. C'est plutôt des jus ou des boissons végétales. Et on devrait éviter de leur dire ça parce que ça peut tromper le consommateur et de se dire, bah tiens, on peut en donner à tout le monde.
Ça remplace
et on peut donner aux enfants, par exemple.
Donc on ne parle pas de lait, ça, d'accord, j'ai compris. Mais est-ce que ces jus végétaux, est-ce qu'ils sont bons pour la santé, finalement?
Alors, disons que pour les personnes qui seraient notamment intolérantes au lactose, ça pourrait les aider à mieux digérer.
Ben oui, donc, bien sûr.
On pourrait trouver un bénéfice. En revanche, dans la population générale, c'est un peu moins calorique. Ça peut parfois aider à digérer, mais globalement, ça n'a pas un intérêt non plus extraordinaire.
On a peut une obsession. Si on aime, mais bon, c'est
exactement.
Pas...
Mais pourquoi pas ?
C'est pas obligatoire en tout cas. Et est-ce qu'on peut les donner aux enfants, par exemple, pour remplacer justement le lait de vache ?
Alors, il y a enfant et enfant. Un enfant de 10 ans, pourquoi pas de temps en temps ? On peut effectivement l'initier pour qu'il ait de nouvelles saveurs. En revanche, on en parlera peut-être après, jamais chez les bébés et les nouveau-nés.
Alors justement, jamais chez les bébés, jamais chez les nouveau-nés, il y a vraiment des parents qui osent penser avoir l'idée de mettre ça dans le biberon, du lait de soja, par
complètement,
exemple.
Complètement, parce que c'est à la mode, on se pense que c'est bobo, c'est vegan, c'est bio, c'est sympa. Et donc, la Société française notamment de pédiatrie a décrit notamment des risques de malnutrition et de dénutrition chez les nouveau-nés.
Il y a même eu un décès à Lyon d'un bébé nourri au lait de soja.
Imaginez tout ça parce qu'on a décidé de lui donner du lait de soja, donc c'est une idée complètement stupide. On donne du lait maternel ou du lait en poudre. Et si vraiment on veut absolument appliquer un régime végétalien, on se fait accompagner, on va voir le pharmacien.
Mais il y a des laits de riz infantiles, en fait, c'est ça. Donc
je vous invite
un
jour à goûter ces laits de riz infantiles, ils sont infâmes.
Mais bon, quand on n'a pas le choix ou que vraiment on a une végétalien convaincue, on peut éventuellement utiliser ces formules qui sont adaptées, qui contiennent tous les nutriments nécessaires à un bébé de quelques mois. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va tout vous dire sur comment devenir un expert en préliminaire.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints tous les jours d'ailleurs à la fin de l'émission par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à la question de Raphaël, 45 ans, Raphaël c'est un homme, qui nous a écrit de Béziers, je vous la lis. Ma femme me fait le reproche de ne pas lui faire suffisamment de préliminaires, cela dit, lorsque je lui en fais, elle ne semble pas plus motivée, que faire ? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on peut répondre à Raphaël, si sa femme lui reproche, en tout cas, c'est qu'il y a un petit souci entre eux, hein, ça, on imagine. Mais c'est quoi faire souvent des préliminaires ? Elle dit qu'il ne lui fait pas assez souvent. Il y a un rythme idéal ?
Non, je crois qu'en fait, la question, c'est qu'elle n'est pas en condition pour faire l'amour quand il le souhaiterait. Du coup, elle lui demande des préliminaires pour se mettre en condition. Et lui, il lui fait des préliminaires. Pour autant, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça pose la question de ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle entend, elle, par préliminaire, et non ce qu'il entend, lui, par préliminaire. Parce que dès lors que le préliminaire est déjà une entrée
en matière
directe, eh bien, elle est toujours en difficulté parce qu'elle est peut-être encore dans ses préoccupations personnelles, dans les préoccupations du quotidien et dans une mise à distance de la sexualité.
D'ailleurs, pour revenir sur les préliminaires en soi, c'est quoi d'ailleurs ? Parce que là, on imagine, je sais pas moi, spontanément en lisant la question, je me suis dit, sa femme, elle veut qu'il lui fasse des cunnilingus, mais est-ce que c'est que ça ? Non, c'est pas ça, d'ailleurs.
Non, c'est même surtout pas ça, parce qu'effectivement, si elle est dans la difficulté de rentrer dans un processus de sexualiser la relation, de se dire qu'elle peut y avoir du plaisir et qu'elle peut aussi donner du plaisir à l'autre, c'est d'abord dans un lien rétabli. Or, dans notre vie de couple, on a beau s'aimer, on a beau faire des tas de choses ensemble, on fait chacun un peu nos missions, l'un de son côté et l'autre de son côté. Donc, de fait, il faut retrouver des liens qui donnent envie de jouir ensemble et notamment érotiquement.
Et c'est quoi comme jeu ? Par exemple, on disait préliminaire, tout sauf cunnilingus, donc c'est quoi pour qu'est-ce qu'il peut lui faire à sa femme, justement ?
Déjà, je pense que si on ne se touche jamais dans la vie, on n'a pas une tendresse, un geste tendre, sans sexualiser le geste, hein, j'entends bien, et bien tout d'un coup que quelqu'un qui ne vous touche pas vous saute dessus, c'est assez agressif, quand bien même il n'est pas agressif. Mais c'est difficile tout d'un coup de s'ouvrir, donc c'est plutôt par une façon de se regarder, par une façon de se toucher, de se caresser, de passer l'un à côté de l'autre, de se faire un clin
léger
d'œil.
Baiser,
c'est se dire que on est quand même des personnages particuliers l'un pour l'autre, puisque nous partageons une intimité corporelle.
Jimmy ?
Ce qui est triste, c'est que Raphaël semble avoir conscience de ce problème-là. Il n'a finalement qu'à faire des efforts, non ? Il devrait peut-être être un peu plus à l'écoute et de son côté, il travaille un peu plus et pas simplement considérer l'acte sexuel comme « bon, bah allez, c'est bon, je suis en érection, on peut y aller ».
Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, c'est souvent celui qui propose la sexualité, c'est celui qui est prêt au départ, il est déjà dans les starting blocks, alors que l'autre est encore tout à une autre aventure. Donc évidemment que l'inquiétude masculine est souvent, puisque c'est souvent dans ce sens que ça fonctionne ou ça dysfonctionne pour la femme et fonctionne pour l'homme, c'est que c'est souvent quand l'homme est prêt à faire l'amour qu'il va donc vouloir faire l'amour, du coup le plus rapidement possible, parce qu'il craint de perdre son érection, il craint que le moment ne soit plus opportun, tout d'un coup il y a tout qui s'est mis en branle en lui et il veut pouvoir en faire état. Et évidemment que les femmes ne sont pas toujours à ce rendez-vous-là. L'erreur est que les femmes ne manifestent pas leur désir. Si elles disaient « là, j'ai envie », eh bien, l'homme verrait aussi que ce n'est pas si simple que ça quand elles en ont envie d'avoir tout de suite dans la seconde une érection. Et que donc, ça nécessite qu'on se regarde, qu'on se touche, qu'on s'appréhende, qu'on rigole ensemble, qu'on se caresse, et puis que ça devienne de plus en plus intime et lié à l'organe sexuel en particulier.
Et là, Raphaël, il dit, elle me fait des reproches parce que j'en fais pas assez. Quand j'en fais, elle a pas l'air motivée. Bon, est-ce qu'il y a juste un problème de communication entre eux ou est-ce que finalement, peut-être qu'il s'y prend mal ?
Je crois qu'il y a un problème de communication dans ce qu'on peut lire entre quatre lignes. Oui, donc, évidemment, ne se faisons pas des réductions. Mais ce qu'on entend, c'est que finalement, elle lui balance « je voudrais que tu me fasses plus de préliminaires ». Et lui, il en fait, alors que rien n'a été évoqué, c'est quoi ? Peut-être qu'effectivement, c'est un cunnilingus qu'elle veut, auquel cas, qu'il prenne le temps de faire un cunnilingus. Et ce n'est pas parce que tout d'un coup, on pose cet acte-là que dans la seconde, il se passe des choses. Ça peut mettre quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, et ça peut être un jeu. Et ça peut être d'ailleurs l'acte sexuel en lui-même. On n'est pas obligé, après, de passer nécessairement à la pénétration et toutes les autres positions du Kama Sutra. Donc en fait, c'est une histoire de communication verbale, mais aussi de communication corporelle, de tendresse. Or là, j'ai un peu le sentiment, dans ces trois lignes, j'ai un peu le sentiment que chacun balance la responsabilité à l'autre, c'est « tu ne me fais pas » et l'autre, de toute façon, elle ne bouge pas. Vous voyez, un truc, une sorte de statu quo. Je crois que la question est de s'interroger sur que veut dire ce statu quo. C'est-à-dire, peut-être que je ne sais pas faire, alors dis-moi comment je dois faire ou qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et donc, elle sorte un peu du bois en racontant ce qui pourrait être érotique pour elle. Et elle, peut-être qu'il y a un autre sujet qui est bien loin de la sexualité, qui est un sentiment de ne pas avoir l'attention de son homme et auquel cas, il faut qu'elle puisse se manifester plus clairement et pas nécessairement sur le sujet de la sexualité.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. Comme tous les jours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.